Donc j'appelle le rapporteur de la table 1 sur les modèles économiques, s'il vous plaît.
Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale, émission spéciale Crise à Libération. Aujourd'hui, depuis le 8 février, les salariés du quotidien sont en lutte contre leurs actionnaires. Au cœur de leur désaccord, un projet visant à transformer le siège de Libération en lieu culturel, en incubateur de start-up, en restaurant, en bar, en espace de coworking. Les salariés, dont le départ du siège est aux yeux des propriétaires inéluctables, n'entendent pas se laisser faire. Nous sommes un journal, c'est le titre d'une une désormais historique parue le 8 février dernier, et c'est la marque de leur combat. Une bataille menée publiquement sur les réseaux sociaux, sur Internet et lors de rencontres. Le 4 mars dernier, un barcamp a rassemblé une centaine de personnes, dont une trentaine d'employés de Libé à Numa, le lieu dédié aux nouvelles technologies au cœur de Paris. Samedi dernier, 15 mars, comme un pied de nez au projet de leur direction, les salariés de Libé ont également ouvert les portes de leur siège rue Béranger dans le 3e arrondissement de Paris au public. Retour sur ces deux événements par ordre chronologique aujourd'hui dans l'atelier des médias. On commence par le barcamp qu'on a déjà découvert dans la première partie. On continue maintenant et on poursuit juste après avec la journée Open Libé de porte ouverte à Libération.
Une question aussi sur le suivi, l'utilisation des statistiques pour profiler ses lecteurs par exemple. Deuxième thème en fait, la nature tout simplement du lecteur. C'est qui ce lecteur? Est-ce que ça commence, est-ce que ça s'arrête au papier? Est-ce que ça commence plus bas dans la chaîne d'échange avec le journal sur
ouvert comme ici? Le problème dans la proposition des actionnaires, c'est qu'ils voulaient faire un resto, un accélérateur de start-up et sans rédac en fait, donc de complètement virer les journalistes pour faire place à autre chose.
Alors on est parti du journaliste pour arriver au lecteur en disant que le journaliste doit toujours se poser la question de ce que doit savoir absolument le lecteur quand il écrit son article, et que lorsqu'il a fini son article, évidemment l'article va continuer à vivre. En fait, il va continuer à travers les commentaires et à travers les réseaux sociaux à exister, à se remplir ou à s'affiner.
Olivier Bertrand, je suis journaliste en poste à Marseille pour Libération et par ailleurs élu au comité entreprise de Libération. D'abord, on prend l'expérience du barcamp ici à Numa extrêmement au sérieux, hein, c'est-à-dire que on vient à la fois se frotter au questionnement de nos lecteurs et en même temps, pour être très franc, voir également s'il y a des pistes, des bonnes idées auxquelles nous on n'a pas pensé pour l'instant et qu'il faut essayer d'explorer avec nos lecteurs. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, je pense que ça peut être un socle. On va voir ce qu'il va en être, mais ça peut être un socle pour continuer à élaborer un projet qui ne soit pas que un projet de journaliste, qui soit aussi un projet de journaliste construit avec des lecteurs, avec des acteurs du numérique, des nouvelles technologies. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème est encore assez général, c'est-à-dire Libération demain. Peut-être qu'on peut imaginer, et on est en train d'y penser, d'avoir d'autres barcamps plus spécialisés qui se déroulent ici, à Numa, ou qui se déroulent peut-être à Libération, et qui puissent creuser des pistes un petit peu plus précises. Diversifier ce qui se fait autour d'un nom, quelque part, c'est accessoire, c'est-à-dire que on peut commencer à l'imaginer une fois qu'on a renforcé le cœur du métier, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte de développer un journalisme de qualité et le plus possible de vivre de ce journalisme.
D'accord. Ça sera la vérité. Comment s'en sortir?
Il y a quelque chose d'autre à dire sur Mirico? Non.
Après, on a un autre thème qui est lecteur, acteur ou consommateur.
C'est moi.
Venez, madame. Vous avez une minute pour convaincre.
Non, ça a toujours été le problème de Libération, de son lien au lecteur. Libération devait être le journal des lecteurs. Le courrier des lecteurs a totalement disparu après 83. Et ensuite, c'est absolument pas transparent, puisque même ce qui se passe à Libération, jusqu'à il y a un mois, il n'y avait rien, en tout cas dans le journal papier. Donc c'est le vrai problème, c'est est-ce que le lecteur doit être un acteur ou seulement un acheteur?
Bonjour, je m'appelle Charlotte Rothman, donc je suis journaliste à Libé, au service politique actuellement.
On est ici à Numa, c'est un lieu particulier pour une soirée qui a été présentée comme un barcamp autour du futur de Libération. Quelles sont tes impressions? Tu as participé aux tables rondes, tu as écouté les restitutions?
Ça fait du bien que la crise qu'on traverse à Libé, on ne la vive pas entre nous, qu'on ne reste pas isolés avec nos anxiétés, nos peut-être difficultés à sortir de la crise. On essaye en interne de trouver des solutions, des propositions, etc. Mais je pense que l'entre-soi est fatal et on n'en veut pas. Donc de pouvoir s'ouvrir et parler complètement librement sans avoir préparé que dalle, en étant voilà, dans des discussions très ouvertes, dans un lieu comme celui-là, c'était bien. D'autant plus que le projet des investisseurs de Libé, ça a été à un moment donné presque inspiré de ce lieu-là, c'est-à-dire un lieu qui est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de coworking, un lieu avec un bar, un lieu avec voilà, tout ce qu'ils aimeraient faire en disant haut de gamme pour Libération, mais malheureusement sans la rédaction de Libération. Donc ce qui était bien pour, de mon point de vue, c'était de voir comment on pouvait peut-être imaginer des transformations, y compris pour Libération, y compris en agrégeant d'autres gens, d'autres sociétés ou d'autres savoir-faire, mais avec nous, c'est-à-dire avec une rédaction, quel que soit le support, mais qui soit un journal et qui soit au cœur d'une machine, d'un lieu de rencontre. Et ici, on est là-dedans, eux, ça les intéressait aussi de nous faire venir aussi pour ça. Et donc ce que je retiens, c'est ça, c'est-à-dire comment on peut imaginer des transformations, alors soit du lieu, parce que moi j'ai participé à un atelier sur le lieu. Est-ce qu'un lieu d'un journal, c'est un lieu ouvert? Comment on peut le rendre accessible? Est-ce que la première porte qu'on pousse, c'est pas le commentaire sur Internet? Enfin, donc aussi bien transformer un lieu que transformer peut-être des savoir-faire. Là, on a parlé de l'autre atelier, c'était sur les innovations éditoriales, tout ce qu'on peut imaginer un petit peu de nouveau grâce aux data, grâce à tout ce qu'on peut faire sur le web et au niveau numérique, etc. Donc c'est toujours cette idée de se transformer, mais sans, je pense, pour nous, perdre notre identité.
Donc, est-ce qu'on est prêt là? On va y aller tranquillement.
Donc, on est parti du constat de la critique classique des lecteurs, de tout le monde, sur Libé manque d'identité politique. Libé se dissout dans la social-démocratie. Pour finir, enfin, une critique classique, pour finir par se dire que cette critique, en fait, était datée, n'était peut-être pas le fond du problème. Et finalement, c'était peut-être même un des mythes fondateurs de Libé qu'on s'était toujours auto-accusé. Les lecteurs nous avaient toujours accusé d'une forme de dérive centriste. Et bien avant l'édito fondateur et symbolique de cette crise de Serge Julie sur le référendum. In fine, la question, c'était peut-être la question de comment on traite la politique, comment on sort de l'agenda institutionnel, communicationnel, comment on parle de politique, comment on surprend et on étonne. Fin de la restitution.
Bonjour, je m'appelle Charlotte Debreuil, je suis responsable de la communication et du développement du Wagon, qui est le premier camp de formation informatique intensive en France.
Et tu es venue ici donc à ce barcamp consacré au futur de Libé à Numa, tu peux me dire pourquoi ?
Je suis, je pense, comme tout Français, que ce soit son journal ou pas, attachée à Libé. Voilà, ça fait partie de mon paysage culturel et je serais dévastée d'apprendre la fermeture de Libé dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent.
Qu'est-ce qui t'a intéressée dans cette soirée ?
Plusieurs choses, mais je crois qu'avant toute chose, on sent quand même un souffle, ou je dirais un vent d'espoir, et à la fois un grand désespoir chez les journalistes et les différentes personnes qui travaillent chez Libé. J'ai remarqué qu'il en fallait beaucoup pour les sortir de leur fatalisme. Quand on disait, par exemple, est-ce qu'on peut trouver de nouvelles écritures journalistiques? Est-ce qu'on peut s'engager dans de nouveaux modèles à la fois économiques et de création? Et, ben, ça bloquait. Souvent, ils disaient, la réaction première, c'était « Oh, c'est compliqué, tu comprends, ça se fait pas comme ça, Libé, c'est un journal qui a une histoire, on peut pas déconstruire comme ça, on peut pas. » Il y a eu beaucoup de négations premières. Et ensuite, ils se sont sans problème dégagés vers des aspects positifs, avec des perspectives, avec des prises de position positives. Et là, c'était excellent.
Bon, donc voilà la politique. Après, il y avait un gros atelier sur les nouvelles écritures, l'innovation en ligne, les flux, le live, le temps réel.
Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite.
Faut bosser.
Ouais, en gros. En fait, on a dégagé plusieurs enjeux en fait, pour le web, pour les nouvelles écritures. En fait, il y a à la fois l'enjeu du transfert des savoir-faire du papier, le transfert des formes de narration qu'on a déjà à partir du papier, et la création de passerelles entre l'info de temps court et l'info de temps long, et l'intégration aussi de nouvelles formes de narration que peut permettre le web, donc l'aspect ludique, le news gaming, la façon dont le lecteur peut s'approprier en fait l'information à partir de ça, qui est une nouvelle forme de narration en fait. Il y a aussi la question de la narration de l'après-article. Il a été dit que les journalistes du papier avaient un peu tendance à considérer qu'une fois que l'article est imprimé, c'est bon, c'est terminé, le boulot il est fini, alors qu'en fait finalement sur le web ça se passe pas comme ça, et que la narration elle continue après en fait, comme on va vendre un article, comment on va le prolonger, le suivi, le réactualiser, etc. Tout ça part de métiers qui ne sont pas forcément les métiers des journalistes papier à la base, demande tout un tas de compétences qu'on ne maîtrise pas forcément, et à partir de là en fait il y avait l'idée de créer un... Attendez que je reprenne mes notes. La création d'un laboratoire numérique, en fait, une espèce de plateforme de travail à la fois avec des développeurs, des graphistes, des journalistes data, etc. Parce que finalement, on ne peut pas demander à un journaliste d'avoir toutes les compétences pour tout faire. Voilà, on va s'arrêter là.
11 jours après cette première rencontre publique, ce bar camp à Numa, les salariés de Libération ont organisé une journée porte ouverte Open Libé consacrée au futur de Libération. La manifestation a accueilli des centaines de personnes ravies de découvrir le siège de ce journal mythique dans une ambiance familiale. Raphaël Constant était sur place pour l'atelier des médias photographie sonore co-signé par Simon Decreuse.
Voilà, bonjour, bienvenue à vous.
En 81, quand on arrête la première formule de Libération, on est 120, donc on a doublé déjà le nombre de salariés, et on vend 45 000 exemplaires. Voilà à peu près. Alors en sachant que le Libé, je vais l'appeler Libé 1, le Libé des années 70, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas d'actionnaires, les petites annonces étaient gratuites, on avait une pagination réduite, enfin voilà, c'était... Et c'est en mai 81 qu'est né le logo Losange Rouge. Et pour vous donner un peu une idée de la progression du journal, donc je vous ai dit qu'en 81, on vendait 45 000 exemplaires. En 88, on vendait 195 000 exemplaires tous les jours sur la France, et nous étions 420 personnes. Donc on peut dire qu'il y a eu l'âge d'or de Libération, c'est les années 80. Voilà. Le problème, c'est qu'à partir justement de 88, les ventes ont commencé à baisser, jusqu'à aujourd'hui.
Bonjour, vous êtes un lecteur de Libération ?
Oui, pas quotidien, mais assez régulier.
Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?
Et le problème de l'avenir de ce journal, que j'aime bien et qui a, comme vous le savez, un avenir assez compromis d'après ce qu'on lit actuellement, et aussi l'intérêt de voir un journal de l'intérieur, parce que je n'ai jamais vu comment étaient faits les locaux, et puis peut-être de rencontrer quelques journalistes dont je lis les articles, mais mettre... un visage sur des plumes, si on peut dire.
Vous vous appelez comment ?
Nathalie.
Pourquoi vous êtes là, dans les locaux de Libération, pour les journées portes ouvertes aujourd'hui ?
Je suis venue soutenir Libération.
Pourquoi ?
Parce que je suis pour la presse écrite française. Je pense que Libération contribue à ce que la presse écrite française soit de qualité. Et ça me ferait vraiment de la peine qu'un journal comme celui-là disparaisse.
Justement, si Libération venait à disparaître demain, qu'est-ce que ça signifierait pour vous ?
Une presse écrite bancale.
Selon vous, quelle est la place du lecteur dans cette transition ?
Bah, le journal est fait pour ses lecteurs, j'imagine. Donc, le fait qu'on soit là, plusieurs lecteurs, c'est pour dire qu'on est attaché à avoir la possibilité de lire ce journal et à ce qu'il existe.
Ce que j'ai remarqué depuis qu'ils font les pages, nous sommes un journal, là, il y a le courrier des lecteurs qui revient, et je crois qu'il a été question justement de remettre le courrier des lecteurs peut-être prochainement. Donc ça pourrait être pas mal, effectivement, de laisser plus de place aux lecteurs. Je sais pas, après, j'ai du mal à dire, parce que souvent les lecteurs de Libé, ils sont un peu, comment dire, caricaturés pour certains. De fond, on dit que ça s'adresse juste à un lectorat parisien, un peu machin, gauche-bobo, mais je sais pas si c'est le cas ou pas. Enfin, moi, je le considère pas comme ça, en tout cas, mais... Bah après, peut-être l'ouvrir plus effectivement sur la province, si c'est le cas, voilà, pas trop centré sur Paris. Je sais pas trop quelle est leur relation. Je pense qu'il y a plusieurs lectorats. Il y a peut-être ceux qui étaient dès le début, puis ceux qui ont pris le journal en cours de route, comme moi.
Merci.
Je vous en prie.
C'est l'histoire de l'essence d'un journal que je me rends compte de la créativité que. Et chaque cartouche vierge, j'ai essayé de les illustrer, même le programme de télévision.
C'est vachement bien.
Voilà.
C'est super bien, c'est super émouvant.
C'est à vous.
C'est la deuxième vie de notre journal sans photo. Merci beaucoup.
Mais j'espère qu'il y en aura une troisième.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour.
Au revoir.
Vous avez illustré le journal, c'est ça ? Vous avez fait une nouvelle version ?
Ah oui.
Oui. Sans photo, qu'avec des
sans
dessins.
Photo, c'était vraiment engageant de voir un journal comme ça qui rendait hommage à la photo sans en mettre, mais avec la légende. Donc la légende des photos m'a inspiré pour que je puisse faire un dessin en fonction de la légende. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, une très très bonne inspiration. Et j'aimerais engager tous les journaux à faire cette démarche qui consiste à impliquer les lecteurs au-delà de la simple lecture du journal, hein, mais d'y participer de manière très, très fondamentale, hein, qui est la participation à la construction d'une image.
Vous en pensez quoi ? Son œuvre ?
C'est super émouvant. En fait, on se rend pas forcément compte, nous, quand on remplit le journal, de la deuxième vie qu'il a une fois qu'il passe du côté des lecteurs. Et on s'en est vraiment rendu compte depuis qu'on a lancé le mouvement Nous sommes un journal, et que les lecteurs nous font remonter les journaux et ce qu'ils en font après, les dessins qu'ils font dessus, la manière dont ils transforment les unes. Et vraiment, on découvre en fait une deuxième vie du journal sur laquelle on n'a d'habitude aucun retour. Moi, ça me touche vraiment.
RF.
Il va falloir qu'on le photocopie et qu'on l'affiche partout.
Depuis cette fameuse semaine du 8 février, où finalement il y a eu toute une série de ruptures, il y a un projet qu'on a découvert, qui a stupéfait un petit peu tout le monde, et puis peut-être aussi dans la manière dont ça a été présenté. Depuis ce moment-là, vous avez un peu décidé de reprendre la main, vous les journalistes, vous les salariés de Libération, et vous, en première ligne, vous les représentants du personnel. Ça veut dire quoi, reprendre la main ?
Reprendre la main, c'est en tous les cas ne pas rester entre les mains de gens en qui on n'a plus confiance. C'est d'abord ça que ça veut dire reprendre la main. Ça ne veut pas dire devenir tout à coup autogestionnaire, seul maître à bord, prenant la barre du navire Libération pour décider seul de l'avenir de cette entreprise. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord parce que, tu l'as dit au début, il y a des actionnaires et que c'est pas à nous de choisir de débarquer des actionnaires. En revanche, ça ne veut pas dire que des journalistes doivent être soumis. C'est pas parce qu'on a des actionnaires qu'on va rester silencieux comme des agneaux. Se prendre en main, ça veut dire d'abord maintenant utiliser les pages du journal, quelques pages du journal, pour expliquer en permanence où on en est, être en transparence le plus possible vis-à-vis des lecteurs, leur expliquer quel est notre combat, quels sont les dangers qui nous guettent, et à chaque fois qu'un nouveau danger est détecté, je dirais pas en temps réel, parce qu'il nous faut le temps de recouper les choses, de bien les peser, de bien tout vérifier. Une fois qu'on est sûr d'un danger, on publie dans nos pages. Et parallèlement, on est en train de travailler nous-mêmes à un projet pour ce journal, un projet équilibré, un projet de développement sur tous les supports, éventuellement avec des pistes de diversification qui soient fidèles aux valeurs de Libération, et un projet enfin qui soit chiffré, qui soit équilibré.
Ça veut dire quoi, on est en train de travailler ? Ça veut dire qui ? Est-ce que tous les journalistes de Libération sont unis dans ce combat ? Est-ce qu'il y a des division aussi, des personnes qui sont plus proches des orientations choisies par la direction, comment ça se passe ?
Je dirais que la rédaction de Libé, et beaucoup plus largement l'entreprise, c'est-à-dire tous les salariés, sont dans une très 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 large majorité soudés derrière ce projet. Hein. Les AG de Libé en ce moment, il y a des assemblées générales assez souvent, pour rendre compte des négociations, du projet, de tout ce qui se passe, sont d'une gravité et d'un calme comme je n'en ai jamais connu à Libé. C'est-à-dire qu'on a toujours connu des AG très agités, avec des gens qui des fois étaient dans des postures, dans des posture ou des fois qui affirmait des propos très radicaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à Libé, il y a encore des, bien entendu et heureusement, des regards différents sur la crise, des regards différents sur la tactique à adopter, mais on a une rédaction aujourd'hui qui est extrêmement solidaire. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de confiance vis-à-vis des représentants du personnel qui jouent un jeu très collectif entre eux et très collectif pour l'équipe de Libération, c'est-à-dire que notre intention, c'est de porter et de porter jusqu'au bout un vrai projet journalistique qui soit le projet de toute la rédaction de Libération.
Et donc, comment vous faites ? Vous vous réunissez ? C'est sous forme d'AG ? Comment vous êtes en train d'élaborer votre contre-projet pour Libération ?
Dans un premier temps, on a proposé à tous ceux qui le souhaitaient de faire remonter des contributions. On a reçu une centaine de contributions. Il faut savoir qu'à Libé, il y a 180 cartes de presse, 133 journalistes pour la rédaction écrivante. Dans la grande majorité, c'est plutôt des journalistes qui ont répondu à cette sollicitation, mais pas seulement. Et donc une centaine de contributions, ce qui est vraiment beaucoup, ce qui est déjà un vrai taux de mobilisation important, ce qui nous fournit un boulot épuisant, puisqu'on a aujourd'hui, on en est à, je crois, 130 ou 140 pages qu'il faut éplucher, dans lesquelles il faut enlever éventuellement des doublons, enfin voilà.
Il faut continuer à travailler en même temps.
Il faut continuer à écrire pour ce journal, il faut que ce journal soit le meilleur possible. En ce moment, c'est indispensable, c'est vraiment très important. Mais donc, parallèlement à ça, aujourd'hui, tous les jours, tous les midis, pendant au moins 2 heures, on se réunit pour essayer maintenant de construire le projet avant de le chiffrer, avant d'essayer de finaliser un projet qui puisse être à l'équilibre.
Pour toi, où est-ce que ça mène tout ce qui est en train de se passer? D'abord, votre réflexion à vous, vos contributions, tout le processus de réflexion sur l'avenir du journal que vous menez, un événement comme celui-là, où est-ce que ça vous mène?
Je ne sais pas, on traverse des moments où on est hyper abattu. Parce que c'est difficile d'être en pleine crise de mutation sans avoir les moyens de la faire, quoi. C'est ça. Une soirée comme celle-là, ça montre quoi? Qu'on est dans une obligation, et c'est avec joie, de transformation. Enfin, moi, je trouve que c'est salutaire, c'est bien. Mais on se heurte quand même assez vite à la question du développement et du projet et du financement. Ce qui est très injuste, c'est que on n'a pas eu les moyens de nos idées, de nos envies. C'est pas la seule chose, voilà, qui explique où on en est, mais quand même, quoi. C'est là où c'est compliqué. Ouais.
On va finir, parce qu'on pourrait en parler encore pendant des heures, mais dans les idées qui ont été évoquées aujourd'hui, il y a la disparition du papier. Alors, tu as bien précisé, quand vous avez écrit « Nous sommes un journal », dans votre esprit, vous ne vouliez pas dire « Nous sommes un journal papier », même si moi, par exemple, je l'ai lu comme ça, entre autres, hein, on pouvait approfondir derrière, mais c'était un peu ça qui ressortait. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces idées de, par exemple, arrêter le papier, de développer la marque, faire des produits dérivés, toutes sortes d'idées qui ont été avancées aujourd'hui? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un refus catégorique? Est-ce que c'est secondaire?
Non, c'est pas secondaire. Je dirais que d'abord, pour être tout à fait franc, je suis un amoureux du papier. J'aime beaucoup le papier. J'aime beaucoup le rapport au journal papier. Ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître, voilà, de façon franche. Ensuite, je suis encore plus amoureux du journalisme. C'est-à-dire que mon métier, c'est un métier d'artisan. C'est de chercher de l'information, de la recouper, ensuite d'essayer de l'écrire de façon à ce que mon lecteur entre dans un article et n'arrête cet article qu'à la fin de l'article. Voilà, ça c'est mon métier en fait. Encore une fois, c'est presque des gestes d'artisan. Et ces gestes d'artisan, je ne suis pas obligé de les reproduire que sur du papier. J'écris autant sur le web que sur le papier.
On en a déjà parlé, tu tiens un blog depuis longtemps qui s'appelle... Mars, il y a Mars dedans, mais j'ai oublié. Chronique de Mars, pardon. Voilà.
Et avant ça, on avait lancé, quand j'étais à Lyon, Libé Lyon, on a lancé des Libé Ville. Enfin, faut quand même rappeler régulièrement que Libé a été le premier quotidien de la presse française à explorer le web. Il faut quand même le rappeler, ça. Donc, aller sur tous les supports, ça ne nous pose pas de problème. En gros, si on pouvait conserver un journal papier de qualité qui a assez de lecteurs pour continuer à vivre, et que parallèlement on continue à explorer les internets pour développer de l'information en ligne de qualité, moi ça m'irait très très bien. Mais on est obligé également d'envisager l'hypothèse, la possibilité que la chute des ventes pour tous les journaux continue dans les années qui viennent, et qu'un jour il faille éventuellement renoncer à paraître sur le papier certains jours de la semaine, par exemple. Ça fait partie des hypothèses que nous explorons, parce que ce serait suicidaire de ne pas l'étudier.
Et ça, tu peux le dire, toi, en âgé, devant des gens, devant tout le monde, à Libé, sans être insulté, sans créer un émoi? C'est quelque chose maintenant qu'on peut entendre?
Il y a deux choses. D'abord, il faut bien se mettre dans la tête que la démocratie existe à Libération, qu'elle est des fois chronophage, qu'elle peut être fatigante, qu'elle peut être agressive, qu'elle peut prendre plein de formes. Mais la démocratie existe à Libération. Il y a des voix différentes et elles peuvent s'exprimer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense que les gens sont assez lucides en ce moment à Libération, et les gens sont capables d'envisager les choses sans tabou. C'est-à-dire qu'on peut dire à la fois, je défendrai, je protégerai le papier aussi longtemps que je pourrai le faire. Ça ne m'empêche pas d'essayer d'envisager quelle solution si dans 2 ans, le papier s'est cassé la gueule.
Pour aller plus loin et pour en savoir plus sur le combat des salariés de Libération, c'est bien entendu sur l'Atelier des médias, dans un billet signé Raphaël Constant, où vous trouverez toute une série de liens vers Nous sommes un journal, vers le blog de Nous sommes un journal et vers les différents comptes sur les réseaux sociaux.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr. Let's go.
C'était l'émission numéro 328 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org. Un salut à nos mondoblogueurs et à leurs nombreux lecteurs. Et enfin, libiablog.org. Salut à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Every day is the mark of something new. Promise that you'll